partie de l'olympisme, du néo-olympisme, les Allemands tenaient absolument à ce que la France participe. Et c'est la France qui était le point stratégique de la diplomatie allemande pour faire en sorte que finalement les Jeux de Berlin ne soient pas boycottés. Coubertin a joué un rôle absolument déplorable dans le sabotage du boycott. D'ailleurs, Coubertin avait des sympathies avouées pour le Troisième Reich, c'est clair. Et notamment pour M. Hitler, cet esprit, ce grand esprit constructeur de notre temps. Voilà la définition que Coubertin donne de M. Hitler, de ce grand esprit constructeur de notre temps.
L'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues.
Il a mis tout son poids de fondateur de l'olympisme dans la lutte contre le boycott. D'autant plus que les membres du comité international olympique, je pense en particulier à Brundage et quelques autres, expliquaient que le boycott était financé par les juifs et évidemment était d'esprit communiste. Bon.
La gauche et en particulier le PC obtient la majorité avec 378 sièges à la Chambre, dont près de 180 pour la SFIO et apparentés.
Du côté français, il faut savoir que à la Chambre des députés, quelques jours avant l'ouverture des Jeux, le 9 juillet 1936, il y a eu un débat très houleux entre les partisans et ceux qui étaient contre les Jeux. Un député communiste, Florimond Bonte, a dit tout simplement que la loi des Jeux était violée puisque les Jeux, c'était normalement l'égalité des races et des religions. Et ce qui se passait en Allemagne avec les voies nazies, c'était tout à fait le contraire de l'esprit olympique. Eh bien, malgré cela, tous les députés communistes ont voté abstention, 78 abstentionnistes. Les autres députés, à plus de 570, ont voté pour le crédit des budgets de 1 million de francs. Un seul député s'est élevé contre et a voté contre, Pierre Mendès-France, car il savait très bien ce qui se passait.
Il est évident que le Front populaire a hésité, et jusqu'au dernier moment. Et une raison fondamentale, c'est la question du pacifisme, qui est une tendance, malheureusement, en France, l'esprit munichois. On l'a vu ensuite en 1938, hein. D'une part. D'autre part, une conception idéologique qui était similaire. C'est-à-dire que le Front populaire venait d'accéder au pouvoir, à donner les congés payés, la vie au plein air, les loisirs physiques, etc. Et donc, beaucoup de Français, y compris à gauche, étaient admiratifs de la puissance allemande retrouvée grâce aux jeux sportifs, grâce au sport, grâce à la mobilisation sportive. L'Allemagne était aussi un modèle de réussite sportive. Rebronzer la race, c'était un des mots d'ordre de Coubertin, c'est effectivement quelque chose qui était dans l'esprit du temps. Léon Blum hésitait dans les alliances. Il ne voulait pas, le gouvernement Front populaire ne voulait pas être seul face à l'Allemagne.
Que nous voulons tout à la fois ranimer la confiance de l'Europe pacifique en elle-même et ranimer la confiance de la France laborieuse en elle-même.
Aucun gouvernement occidental n'a voulu prendre la responsabilité de dire « nous n'irons pas à Berlin ». Et la seule manière de lutter contre les Jeux de Berlin, ça aurait été de dire « nous n'irons pas à Berlin jouer les gladiateurs de Hitler ». Voilà. C'était le mot d'ordre de Heinrich Mann, qui était un grand écrivain antifasciste allemand. Et finalement, la réussite des Jeux de Berlin, ça a été effectivement le triomphe absolu de Hitler, l'hitlérisme et la marche à la guerre.
Mobilisation pour la guerre, 1er août 1936, mobilisation pour le sport et la paix. À Berlin, les Jeux Olympiques commencent. L'entrée du Führer chancelier et du corps diplomatique. La France.
Là, c'est des foules, il fallait voir avec quel élan ils étaient là, mon ami, en train de... C'était...
Noël van der Noot, c'est le plus jeune médaillé de toute l'histoire olympique, et il le restera, parce qu'à Berlin, il avait 12 ans et demi. À cet âge-là, il était barreur dans le 4 barré et le 2 barré, avec d'autres saisons que dans le 4 barré, et il a eu la satisfaction personnelle de remporter... deux médailles de bronze.
En aviron, les Français qui avaient réussi à se qualifier pour la finale des quatre sont aux prises avec les équipes de l'Allemagne, de la Suisse, de la Hollande, du Danemark et de la Hongrie. Après une lutte serrée, l'Allemagne remporte la victoire sur la Suisse, l'équipe française se classant troisième.
C'était la mascotte du village olympique des barreurs. Et tout le monde voulait se faire photographier avec lui. Il faisait la une des journaux du monde entier. Et cet enfant est revenu en France en disant à tous ses proches la véritable impression qu'il avait de ces Jeux. Bien sûr, c'était des Jeux grandioses, fantastiques, dira-t-il. Mais sachez qu'une chose va avoir lieu. Il va y avoir la guerre.
Là, on voit très bien, effectivement, toutes les images l'attestent que les Jeux de Berlin ont été une mise en scène calculée, programmée et parfaitement réussie. C'est-à-dire que les nazis, avec Goebbels et quelques autres, avaient compris qu'il fallait absolument, rendre esthétique cette manifestation de masse. Le ballon dirigeable Hindenburg qui survolait le stade olympique, des jeux d'éclairage, la musique, etc., les chants, et puis surtout cette foule allemande alignée, disciplinée. Goebbels a été d'ailleurs un metteur en scène absolument, entre guillemets, génial, parce que lui, il avait compris que la voix, le porte-parole, les hurlements, la mise en scène vocale, les cris de la foule, c'était effectivement une manière, disons, de fasciner et de mise en condition absolue. Et donc, lors des Jeux de Berlin, on a vu 100 000 Allemands dressant le bras, tendu, et crier « Heil Hitler » dans une espèce de magma sonore permanent.
Wir grüßen den Führer, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!
Wilhelm Reich, le grand psychologue, explique très bien ça dans Psychologie de masse du fascisme. Il explique comment les masses, mais aussi les intellectuels, ce qu'on appelle intelligentsia, sont fascinés et subjugués, séduites par les symboles forts, par des symboles de rassemblement, par le triomphe, par la victoire, toute valeur qui était déjà chez les Grecs et les Romains, mais que les Allemands, reprenant l'idéologie gréco-romaine, ont su magnifier à travers une esthétique, à travers un discours philosophique et à travers une propagande. Et le problème, c'est que la plupart des pays occidentaux de l'époque sont tombés dans le piège. Ils n'ont pas vu le diable venir.
Confier à une cinéaste renommée, Leni Riefenstahl, de faire un film sur les Jeux de Berlin, qui a été primé partout, qui est un chef-d'œuvre, c'est vrai. Bon, mais les Allemands savaient faire leur propagande, effectivement, par les ondes aussi. 2500 heures de radio ont été distribuées sur le sol allemand pendant la durée des Jeux. C'est phénoménal quand on y repense aujourd'hui.
Leni Riefenstahl va mettre tout son talent à la disposition du Troisième Reich et bénéficier de tous les moyens pour magnifier les conceptions esthétiques de l'idéologie nazie. Elle utilisera des dizaines de caméras, installera des travelling, des ralentis, des prises de vue aériennes et fera répéter les athlètes bien avant les Jeux, comme pour une fiction à grand spectacle destinée à fasciner. C'est à l'occasion de ces Jeux que la première caméra de télévision est expérimentée pour retransmettre les images en direct dans plusieurs cinémas de Berlin.
Leni Riefenstahl explique dans une de ses correspondances, je crois bien, que la seule directive que lui aurait donnée Goebbels, c'est de ne pas montrer trop de nègres dans son film. Bon. C'est sûr que c'était gênant. Et d'autant plus que les Allemands qualifiaient les athlètes américains noirs d'auxiliaires africains des États-Unis. Bon, pour pas dire nègre. Bon.
Jesse Owens, au départ de la finale du 100 mètres. Attention Hollandais Ozendarp et à l'Américain Ralph Metcalf. Jesse Owens pour un départ fantastique et après 40 mètres de course, 2 mètres d'avance, son compatriote Metcalf revient dans les derniers mètres et il termine deuxième. Jesse Owens, champion olympique, Metcalf, deuxième Ozendarp.
Jesse Owens et Louise Long, qui se bat en Italie dans les rangs de l'armée du Troisième Reich, resteront amis pour l'éternité et n'auront de cesse de s'écrire jusqu'à cette dernière lettre. Cher Jesse, j'ai l'impression que cette lettre est la dernière que je t'écris depuis le front italien. Après la guerre, va en Allemagne. Retrouve mon fils et parle-lui de son père. Parle-lui de l'époque où la guerre ne nous séparait pas, et dis-lui que les choses peuvent être différentes entre les hommes sur cette terre. Ton frère, Louise Longue.